mission d'Explora était de permettre à des femmes et des hommes ordinaires de vivre des choses extraordinaires. Niveau 1, c'est-à-dire le sportif du dimanche, le gars qui a une paire de baskets dans son placard et c'est à peu près tout, quoi. Il sait à peine où elles sont. Et le niveau 5, qui sont un peu les énervés de la bande, les fils cachés de Mike Horn, qui vont traverser le Groenland, l'Antarctique, ou faire des sommets très engagés. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Et l'idée était vraiment de démocratiser cet accès à l'aventure, offrir la possibilité de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi-même, tout en le faisant le plus durablement possible et bien sûr dans le respect de l'environnement. Au début, j'en ai fait beaucoup. La première année, on s'est retrouvé première salariée, c'était Camille, qui était une guide d'aventure au Canada, que je connaissais d'amis et qui m'avait été recommandée. Quand j'ai vu, on avait fait un Skype, et quand j'ai vu sa vie, elle avait sa peau de bête, elle disait désolé, j'ai pas de chauffage, j'étais dans un tipi, il y avait les chiens dehors, elle leur balançait des gros morceaux de viande rouge, j'ai dit oh bon, alors là, ça c'est une entrée en matière, et je crois que c'est cette fille-là que j'aimerais bien avoir dans mes expéditions pour justement créer les expéditions. Donc c'est elle qui avait commencé à travailler le catalogue.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Stanislas Gruau. Bonjour Stanislas.
Salut Pierre-Arnaud.
Merci de prendre ce temps. Écoute, ravi de pouvoir échanger à ce propos. Est-ce que peut-être avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Oui, moi je m'appelle Stanislas Gruau, j'ai 33 ans, j'habite à Genève, je suis marié, j'ai deux filles, comme ça, voilà, connaissez tout mon état marital. J'ai fondé il y a 2 ans l'agence de voyage d'aventure durable qui s'appelle Explora Project. On est basé, les bureaux sont basés à Annecy, on est une petite quinzaine aujourd'hui. Donc j'ai eu différentes phases de vie. Avant de me lancer dans ce projet entrepreneurial, j'ai fait un peu moins de 10 ans de trading. J'étais en trading de matières premières à Paris, puis à Genève, dans une grande multinationale américaine qui s'appelle Cargill. J'ai opéré à 30 ans, à la naissance de ma première fille, un vrai virage de vie pour retrouver un peu plus de sens, pour avoir l'impression de me rendre un peu plus utile, pour me reconnecter un peu à des envies profonde que j'avais d'aider les gens sur la planète à retrouver un lien avec la nature, avec leur corps, avec une idée du dépassement de soi physique. Voilà, tout ça se bousculait un peu dans ma tête. Et le projet Explora est né à la rencontre un peu de mon histoire personnelle et puis d'un marché aussi. Souvent ça, les expériences entrepreneuriales. La rencontre de ces deux phénomènes-là. Et aujourd'hui, ma vie a complètement changé depuis 2 ans, nécessairement, et je regrette pas trop ce choix-là, quoi.
C'est impressionnant, ce changement de mentalité entre les gros chiffres, on va dire, dans le trading et l'aventure finalement entrepreneuriale dans laquelle tu risques tout pour sans savoir ce que tu vas donner, quoi.
Ouais. Je pense que ma vie d'avant était plus risquée, en fait. Elle était plus risquée parce que finalement, le métier de trader, c'est un métier très radical, avec assez peu de nuances. D'ailleurs, on peut qu'acheter ou vendre, hein. On peut pas. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. On peut pas ne rien faire, en fait. On peut pas ne pas avoir de position, comme on dit. On est dans une course permanente qui nous pousse à toujours avoir un avis, en fait. Il faut vendre ou il faut acheter. Donc, ça radicalise nécessairement la vue qu'on a sur le monde. Ça lui enlève une certaine nuance. Et je crois que de fil en aiguille, j'avais perdu cette nuance dans toute ma vie. Je faisais des choix qui étaient radicaux et j'étais presque habitué à défendre des positions de manière blanche ou noire, systématiquement. Et c'est maintenant des traits de caractère que je retrouve chez certaines personnes autour de moi. Et j'ai vraiment une red flag maintenant qui est dans mon cerveau qui se dresse quand je sens ces mécanismes intellectuels. Et c'est un des biais de ce métier-là. Et donc, c'est vrai que finalement, c'est assez risqué d'aborder le monde de cette manière-là et sous couvert de salariat, etc., qui peut apporter une certaine sécurité apparente. En fait, c'est un grand danger parce qu'on est en train de radicaliser toute sa vision du monde et on est en train d'enlever toute nuance, parfois toute intelligence émotionnelle qui est le fruit de la nuance. Et finalement, je pense que ce sont des années où, insidieusement, je me suis mis en danger mes proches, mes amis, d'une certaine manière, à essayer d'étendre cette manière un peu... cette manière radicale de voir les choses et de prendre mes décisions. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus apaisé finalement que j'ai lancé Explora et je me rends bien compte que finalement toute la vie est dans la nuance et ça, je suis très content d'avoir retrouvé ça, qui me redonne un peu de recul sur les choses et j'ai l'impression d'être beaucoup plus utile et beaucoup plus fin dans ma manière de voir les choses maintenant. Donc c'est vrai que d'un point de vue entrepreneurial, on dit souvent oh, tu t'es lancé, c'est la grande aventure, c'est sans filet. Je crois que finalement c'était avant que j'étais en chute libre et aujourd'hui je suis déjà beaucoup plus à l'aise j'ai l'impression de ouais, finalement, d'être en chute maîtrisée, en flying suit, on va dire.
Canon. Tu nous ferais un petit descriptif du coup de ce que c'est que Explora Project, s'il te plaît?
Ouais, Explora Project, c'est une agence de voyage d'aventure que j'ai lancée il y a 2 ans, donc à l'été 2018, qui s'est tout d'abord spécialisée dans... enfin, la mission d'Explora était de permettre à des femmes et des hommes ordinaires de vivre des choses extraordinaires. Mmh. Je reviendrai peut-être après sur la genèse du projet et comment est-ce que cette mission-là a émané de mon esprit. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est une agence qui a deux particularités. La première, c'est d'un point de vue produit. On propose des expéditions qui sont uniques parce qu'elles sont créées par nos guides. Donc, on ne vend les voyages de personne et on est revendu par personne. Donc, c'est nécessairement des expériences qui sont éphémères, qu'on propose un certain nombre de fois pour pas surexploiter un endroit de la planète. Des expéditions qui sont, du coup, dans le dépassement de soi, non motorisées, durables parce qu'avec l'impact carbone le plus réduit possible. On est aujourd'hui à peu près entre 2 et 5 fois moins que la moyenne de l'industrie du voyage d'aventure en impact carbone journalier sur l'ensemble de nos expéditions au départ de Paris. Mmh. Et globalement à peu près 15 fois moins que on va dire les grandes marques du leisure et du surtourisme ou des vacances club par exemple. Donc on a aujourd'hui on apporte une solution qui pour l'instant est locale, qui pour l'instant est petite, mais on travaille à la porter à l'échelle. Donc clairement, la mission d'Explora est d'apporter une solution à l'échelle mondiale d'un produit touristique qui aurait un impact positif pour l'homme et l'environnement et pas négatif. Donc c'est un peu la mission durable et le cœur du réacteur chez nous. Et donc après, sur le produit, ça se transmet avec des produits qui sont dans différents environnements. On a aujourd'hui 6 environnements, la haute montagne, le désert, la haute mer, les forêts, les vallées, les terres polaires, l'eau vive, et une trentaine de disciplines. Et il y en a pour tous les niveaux de difficultés, de niveau 1, c'est-à-dire le sportif du dimanche, le gars qui a une paire de baskets dans son placard et c'est à peu près tout, quoi. Il sait à peine où elles sont. Et le niveau 5, qui sont un peu les énervés de la bande, les fils cachés de Mike Horn, qui vont traverser le Groenland, l'Antarctique, ou faire des sommets très engagés. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Et l'idée était vraiment de démocratiser cet accès à l'aventure, offrir la possibilité de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à soi-même, tout en le faisant le plus durablement possible et bien sûr dans le respect de l'environnement. Et puis, il y a une deuxième mission plus start-up d'un certain côté qu'on a mis dans ce projet Explora, c'est aussi l'idée de revoir l'organisation du secteur du tourisme, qui aujourd'hui fonctionne dans sa grande majorité autour de 3 grands métiers, l'agence de voyage qui a pignon sur rue ou online, qui va souvent vendre les voyages d'un tour opérateur, vendre les catalogues d'un tour opérateur, tour opérateur type Club Med ou type Terre d'Aventure ou Fram, donc tous ces gros Théo, et qui eux-mêmes commandent des voyages à des réceptifs locaux dans les pays de destination, qui sont eux en fait les faiseurs, les producteurs, les concepteurs des voyages. Et en fait, le secteur du tourisme, c'est un grand entonnoir. Il existe sur la planète quelques milliers de réceptifs, il existe des dizaines de milliers de tour opérateurs et des centaines de milliers d'agences de voyage. Et donc, ce grand entonnoir fait qu'à la base, un voyage construit par un tour opérateur se retrouve éclaté, vendu aux quatre coins du monde comme un voyage soi-disant unique, extraordinaire, qui ne sera jamais fait, une expérience unique au monde, etc. Mais tout ça, en fait, c'est vraiment du bullshit. C'est pas vrai, quoi. En fait, de ce même réceptif, par exemple, canadien, des agences américaines, chinoises, irlandaises, sud-coréennes, françaises vont en fait vendre ce même voyage en le rendant tous sur le papier unique. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus de producteurs, de moins en moins. Il n'y a que des revendeurs. On connaît bien le principe de la marketplace. C'est pareil un peu pour le travel. Donc, l'idée d'Explora était de dire, entre le guide local et le client final, il n'y aura pas trois acteurs, il n'y en aura qu'un, il n'y aura que nous. On connaîtra par cœur nos produits et ce sera... notre responsabilité de les vendre aux bonnes personnes et de leur partager la passion qu'on a mis dans la conception de ce projet, de ces produits. Donc c'est vrai qu'on compile plusieurs métiers, finalement. En fait, on compile trois métiers en un. Notre organigramme, il est à la fois la tête d'un réceptif, mais en même temps aussi d'un vendeur, d'un tour opérateur, et voire même d'une boîte de production, puisqu'on a basé notre système d'acquisition et de communication sur de la création de films. Donc, voilà un peu le pari qu'on s'est lancé. Offrir un produit qui permettent aux gens de vivre des choses extraordinaires dans un quotidien qui est pour eux ordinaire, essayer de démocratiser ça en coupant les intermédiaires et en offrant un prix qui soit juste et qui soit fair et qui soit faible, et en même temps offrir tout ça dans le respect du plus grand combat que le siècle ait connu, qui est le réchauffement climatique et la nécessité, non pas de réduire son empreinte, mais on pousse la bataille et l'engagement à dire qu'il faut avoir un impact positif. Et ça, c'est un gros travail de machinerie en coulisses.
C'est vraiment extraordinaire. Tu, juste pour bien comprendre, comme tu parles de cinq niveaux, je reviens juste sur ce point-là d'abord. Tu as le niveau 1, tu me dis, sportif du dimanche, que tu vas accompagner peut-être dans toute l'expédition. Et niveau 5, qui sont les plus avancés, comme tu dis, les plus énervés, qui vont faire des projets qui vont demander beaucoup plus de préparation. Dans le niveau 1, moi, je vois très bien la valeur ajoutée que t'apportes pour quelqu'un qui pourrait se présenter finalement, j'ai presque pas mal le mot, de manière touristique sur le projet. Dans le niveau 5, comme tu commences à pousser le modèle très très loin, qu'est-ce que tu vas apporter comme valeur ajoutée, tu vois, au fur et à mesure que ça se complexifie, quel est ton niveau d'accompagnement ?
Finalement, il est assez similaire tout au long de cette... tout au long de ce parcours un peu initiatique, Explora va être là pour déjà définir les parcours et les tracés d'expédition dans des terres qui sont parfois éloignées, peu visitées, isolées pour certains niveaux et enfin pour les premiers niveaux et complètement très très engagées pour les derniers. Donc déjà il y a quand même une nécessité de connaître le territoire et de faire les tracés. Il y a toujours un accompagnement sur évidemment le matériel. Donc qu'on soit en niveau 1 ou en niveau 5, je veux dire, plus les niveaux sont élevés, plus on a souvent besoin d'accompagnement sur la location ou des achats parfois ou des conseils sur le matériel. Donc Explora est toujours là en support pour le matériel, pour les participants et pour le groupe, bien sûr. Évidemment, on fournit, même si on est en niveau 5, on a besoin d'un guide pour le faire dans les meilleures conditions possibles, et à part quelques-uns énervés qui le font un peu tout seul, dans la plupart du temps, il est quand même bon d'avoir un guide. C'est juste que c'est une histoire de palier, en fait. Le guide est là pour te faire progresser jusqu'au palier suivant, mais c'est pas parce que t'es super pro en alpi et que tu sais faire plein de trucs que t'as déjà fait un 4000, mais pour aller faire un 5000 ou un 6000, t'es quand même content d'avoir quelqu'un pour t'aider à passer ce cap. Et peut-être qu'après après l'avoir fait plusieurs fois, tu pourras faire ton 5000 et ton 6000 tout seul, mais pour aller faire un 7000 ou un 8000, tu seras quand même content de retrouver un guide. Et ainsi de suite, en fait. L'idée d'Explora, c'est d'accompagner les outdoor lovers, on va dire, dans leur progression, dans leurs différents paliers de progression sur une discipline. Aujourd'hui, finalement, On voit, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, tu vois, il y a le matériel, comme je te disais, il y a le tracé, puis il y a la nourriture, il y a le support logistique. Tu vois, il y a le fait aussi que les gens n'ont pas le temps. Donc, finalement, nous, on organise un peu tout pour eux et on dégrossit. Il y a tout clé en main où tu peux réserver n'importe quelle expédition sur le site en 5 clics. Bon, bah, ça a quand même une valeur dans nos vies avec un temps avec un temps qui passe vite, ça a quand même une vraie valeur ajoutée. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que bah tu le sais bien, nos générations, bah on est des touches à tout quoi. On a envie de tout faire, mais on sait rien faire. Mais on a envie de tout faire. Ouais, mais je sais rien faire. Et en fait, c'était cette espèce de cercle permanent de gens qui veulent un jour faire du kite et puis après, oh il y a du ski de rando, c'est énorme. J'ai vu une pub Salomon, j'ai envie d'essayer. Oh le trail, j'en ai marre de courir sur route. Je me ferais bien un peu de trail. Oh la voile, on se ferait pas un EVG découverte initiation de la voile. Et en fait, c'est comme ça, par saut de puce, où finalement on a aujourd'hui une telle stimulation visuelle par les réseaux sociaux notamment, qu'on a envie de tout faire et que on a 30 ou 35 disciplines et je pense que la surface de contact de chaque client potentiel avec ce panel de disciplines, il est d'au moins entre 4 et 10 disciplines. Et ça marche aussi pour des cinquantenaires ou soixantenaires qui auraient envie de se mettre, ils font le vélo, puis après ils disent, on va faire un trek avec les copains, puis après, si on faisait du yoga, t'as vu la méthode Wim Hof de renforcement immunitaire par le froid, c'est hyper marrant. Attends, il y a un truc d'apprentissage de photos, nature, et tu vois, en fait, même sur des niveaux simples, on peut aussi trouver un panel de plein de disciplines. Donc en fait, finalement, ils ont besoin de nous parce qu'ils sont novices, ils progressent assez rarement d'un niveau 1 à un niveau 5 sur une discipline donnée. C'est plutôt qu'ils trouvent leur niveau, par exemple, tu vois, leur niveau de condition physique, souvent, la condition physique est souvent ce qui est un peu le premier niveau de sélection, enfin l'un des éléments importants. Bah, ils se disent, bah voilà, moi dans la gamme de 1 à 5, je suis plutôt niveau 3. Et du coup, ils vont se mettre à dire, bon, bah, en niveau 3, je peux faire quoi comme XP? Bah, il y a une initiation au ski kite, chasseur d'aurore boréale en raquette, un truc de photo, un truc de voile. Et finalement, ils évoluent plutôt en horizontal qu'en pure vertical. Donc, je pense que le jour où les gens seront complètement autonomes et pourront se passer de nous, bah, franchement, j'en rêve. Et c'est un peu probablement la mission ultime. Dans les faits, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étapes avant qu'on arrive là. Mais on ne retient personne. On forme justement les gens à devenir autonomes.
Ah, bah complètement. En fait, tu me parles de certains niveaux. Je pense que proportionnellement, tu vas avoir logiquement plus de niveau 1 que de niveau 5. Et donc, quelle est la taille de la pente de la pyramide?
On a aujourd'hui 5 niveaux. C'est vrai, en fait, on n'a pas du tout autant d'expéditions dans chaque niveau. On a, je crois, tout juste, si je ne dis pas de bêtises, 100 expéditions sur le site aujourd'hui, ce qui doit correspondre à peu ou prou 500 départs pour les prochains mois déjà. Je pense qu'on prévoit à peu près 1000 départs pour l'année 2021, un peu partout en Europe. Et en effet, le ratio serait à peu près de... c'est presque un ratio pour l'instant qui est en diamant. C'est-à-dire qu'on a un niveau 1 qui doit... les deux niveaux les plus forts sont les niveaux 2 et 3. Et le niveau 1 complètement débutant, comme la gamme n'a pas trop démarré là-dessus, au début on a démarré plutôt par des XP énervés, puis on est descendu comme ça dans la pyramide, où on se disait, oh, ça a encore trop énervé, oh la vache, non, trop bourrin, et puis on a descendu comme ça, c'est un peu comme ça qu'on a construit le catalogue. Donc il subsiste encore aujourd'hui beaucoup d'expéditions très engagées. Donc je dirais que en ratio, on doit avoir à peu près 10% d'expéditions niveau 1 et plutôt 20, à mon avis 30-35% de chaque sur les niveaux 2, niveau 3, peut-être même plus, peut-être 40 et 40. Et puis XP 4 et 5, on doit avoir 10% niveau 4 et 5% niveau 5. Je ne sais pas si ça fait peut-être 105% ce que je viens de dire, 105 ou 110, mais à la louche, on est grosso modo, on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de débutants qui viennent nous voir et des débutants, mais quand même, comme ils sont attirés par la marque, qui a des visuels qui sont quand même assez engagés, il y a une sélection naturelle qui se fait, donc ils sont débutants, mais c'est plutôt niveau 1, niveau 2, quoi. Niveau 2, niveau 3, pardon. Voilà, grosso modo. Et puis les niveaux 4, niveau 5, faut dire que c'est ça qui fait vraiment rêver les gens, mais tu sais, ça c'est... Je sais pas si c'est triste, en fait, c'est juste que c'est une réalité, c'est que les gens rêvent de faire des niveaux 4, niveau 5, et puis... n'arrivent pas à se décider à le faire et donc ils cliquent sur tel XP qu'ils ont vu sur les réseaux de traversée intégrale de l'Islande, machin, et hyper bourrin, puis ils finissent par faire un truc de 3 jours dans les Alpes, pas du tout, c'est pas l'XP sur laquelle ils avaient cliqué. Mais c'est plus raisonnable aujourd'hui, et ce projet d'Islande, il mature, et ils le feront peut-être dans 6 mois ou l'année d'après, ou tu vois, dans voilà, mécanisme cognitif.
Mais bon. Et alors sur cela, question bête, mais sur cela, t'en as combien que toi t'as voulu faire à titre perso?
Ah, ça c'est l'éternel débat entre moi et moi, hein. Mais au début j'en ai fait beaucoup. La première année on s'est retrouvé première salariée, c'était Camille, qui était une guide d'aventure au Canada, que je connaissais d'amis et qui m'avait été recommandée. Puis elle est venue s'installer du fin fond du Canada, où elle était musher et guide de chiens de traîneau là-bas. Elle vivait dans un tipi avec ses chiens, enfin elle avait une life qui était vraiment tout ce que je projetais du côté rustique d'Explora. Donc on a fait un Skype, et quand j'ai vu sa vie, elle avait sa peau de bête, elle disait désolé, j'ai pas de chauffage, j'étais dans un tipi, il y avait les chiens dehors, elle leur balançait des gros morceaux de viande rouge, j'ai dit oh bon, alors là, ça c'est une entrée en matière, et je crois que c'est cette fille-là que j'aimerais bien avoir dans mes expéditions pour justement créer les expéditions. Donc c'est elle qui avait commencé à travailler le catalogue, et elle était assez, elle est hyper sportive, et on avait tous les deux un tropisme assez quand même plutôt niveau 5, quoi, ou en tout cas dans l'envie de faire vraiment des choses dans le dépassement de soi. Et du coup, merde, pourquoi je te raconte ça? Ah oui, parce que tu me demandais s'il fallait quelles expéditions j'avais envie de tester. Du coup, les premières, je les ai toutes faites avec elle, en fait. On a fait la traversée de l'Islande en juin 2018, la toute première expédition. Ça faisait quelques jours que j'avais démissionné de ma vie d'avant. On s'est dit, on va traverser toute l'Islande en autonomie, en 15 jours, de la mer du Groenland, Islande Nord-Sud, de la mer du Groenland là-haut, jusqu'à, donc de la ville d'Akureyri, jusqu'au sud, jusqu'à Selfoss, je crois, et en passant par Hofsjökull, le glacier qu'il y a au centre de l'île. Et on s'est dit, ouais, on prend notre pactage, on fait un post Facebook, on dit, bah, qui veut venir, on part dans un mois, on fait des courses à droite à gauche, et puis on est en autonomie complète, gros pactage, et puis donc il y a de l'Alpi, parce qu'il y avait un gros glacier, d'ailleurs assez crevassé à cette période. On était parti en juin, tout début juin. On prend des raquettes, parce qu'il y aura sûrement encore de la neige, on voudrait descendre de 200-300 km de rivière, donc on prend des packrafts dans le sac à dos. On avait tout, on avait 3-4 disciplines en même temps, des sacs qui faisaient 35 kg pour les hommes, et pour elle, Camille, elle avait 28 kg, c'était importable, c'était des menhirs. Et du coup, au bout de 200 mètres, on se disait déjà, c'est chaud, quoi. Enfin, 35 kg au bout de 200 mètres, c'est comme si tu portais un pote, quoi. Enfin, franchement, c'est ça. Ou une copine fluette, mais en tout cas, c'est quand même vraiment bourrin, quoi. Donc, c'était rigolo. Puis, bon, cette expé, j'oublierai jamais, c'était génial. Mais on est arrivé dans l'Atlantique. 12 jours plus tard, escorté par les phoques. Enfin, c'était une vraie épopée. Il y a un film sur YouTube, d'ailleurs, qui s'appelle 12 jours de traversée d'Islande Nord-Sud. Enfin, sur la chaîne Explora Project, il y a un 12 minutes, je crois, qui se. Notre toute première production, qui se trouve bien et qui est rigolo. Et puis après, ouais, après, de fil en aiguille, j'en ai testé vachement d'autres en France. Le vrai enseignement, c'était. Ça fait des followers sur les réseaux. Assez vite, on avait eu plusieurs milliers avec cette première vidéo qui avait commencé à suivre les comptes et tout. Et puis on s'est dit, bon, alors du coup, c'est l'image qui est un peu bankable pour des followers, mais pour des clients, bah, c'est pareil, ils cliquent parce qu'ils trouvent ça très cool ce qu'on leur montre. Mais est-ce qu'ils se projettent, eux, de traverser l'Islande comme des bourrins alors qu'on avait failli y passer? Bah, pas trop. Donc c'était quand même un peu bourrin. Donc il fallait qu'on trouve des formats plus accessibles. Et après, on est rentré dans une phase de 6 mois où on a testé vachement de choses, mais en France. Chamonix-Genève en rafting sur 3-4 jours, une expé qui s'appelait sur les rivières du Mont-Blanc, voilà, et des trucs pas très loin, mais que les gens font pas trop et qui sont quand même un peu engagés, qui sont un peu, c'est un peu des merdards, si tu marches 20 minutes, tu trouves un village, donc il va pas t'arriver grand chose, mais t'es déjà plein de nature, c'est à peu près accessible. On avait multiplié les trucs comme ça, un peu sur l'idée de la micro-aventure, phénomène qui naissait à l'époque et qu'on entendait un peu, c'est-à-dire essayer de trouver quand même de l'aventure pas trop loin de chez toi. Mais nous, on était plutôt sur un prisme avec un peu de matos technique, un peu engagé, donc micro-aventure, et le terme était un peu light, donc on parlait au début de micro-expédition, bref. Et on a testé pas mal de trucs. Donc ça, j'en ai fait vachement pendant les 9 premiers mois. Et puis après, bah, arrive un moment où dans la boîte, t'es plus deux, t'as 50 participants, 100, 200, 300, il faut un back-office, il faut un nouveau site, il faut machin, il faut peut-être une première levée de fonds, un peu de market, des réseaux sociaux, tu te retrouves, on est passé de 2 à 7, 8, et puis là, bah, faut être un peu aux manettes, quoi. Donc j'étais quand même beaucoup moins en expé. Et puis j'ai refait une deuxième grosse expé, un peu comme l'Islande, une grosse année après, en février 2019, qui s'appelle la Laponie en kiteski. C'est la traversée du désert du Sarek en ski avec des ailes de kite en 11 jours. On est parti à. Bah, du coup, j'étais parti avec un groupe de clients. Moi, j'étais pas guide, j'étais, je sais pas, troubadour. Hein. J'étais en gros là pour voir un peu le type de produit. Non, mais j'étais là. Non, je dis troubadour parce que moi, c'est une aventure humaine et que je fais ça pour passer vachement de bon temps aussi et que on n'est pas là dans la performance. Sinon, on ferait des courses avec Dossard. L'idée, c'est juste de. C'est juste de s'éclater. Et là, l'idée, clairement, on s'est complètement éclaté. On s'est aussi fait éclater par les éléments parce qu'on est retrouvé dans un univers hyper hostile. Mais vraiment génial. Il y a aussi un... Je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il y a aussi un film de 8 minutes qui est dispo sur YouTube et qui s'appelle « Éléments » en français. Et qui est très beau, qui est en suédois. Enfin, si vous cliquez, oui, oui, c'est bien ce site-là. On l'a fait en suédois avec de la musique électro en bande son. T'es assez perché sur la production. Et du coup, très, très belle expé. Et depuis, écoute, depuis, j'ai refait un premier 4000 là avec Guillaume Gibaud du Slip Français et Grégoire Gibaud, son petit frère Major Mouvement, qui voulait venir sur une expé. Je me suis dit, bah, je vais aller avec eux parce que ça me faisait plaisir de passer un moment avec eux. Et c'est vrai que je ne mettais plus trop le nez en expé dans les dernières semaines. Du coup, voilà, il y a eu la petite pause intra-Covid, là, où, entre les deux confinements, où en juillet, j'y suis retourné. Et là, maintenant, je suis sur un délire d'essayer de le faire un peu avec... j'en ai fait une avec ma femme aussi. On a fait trois jours dans le Vercors, avec des skis pulka, assez engagés, parce qu'on a eu un sale temps. Et du coup, il faisait vite moins 30. On a du mal à imaginer, mais quand tu es là-haut, sur le plateau du Vercors, ça... C'est une grosse zone d'entraînement d'expé polaire. Les mecs vont là-bas sur le Vercors. Donc, j'en ai fait pas mal. Hein. C'est vrai que d'un extérieur, on se dit, le gars est toujours dehors. Mais pour en parler toute la journée, le ratio reste quand même assez faible. On est plutôt... voilà, mais carrément l'envie de tester ça maintenant avec des copains. Maintenant qu'Explora marche bien, que la chose est installée, d'aller tester ça avec des copains. Avec ma famille aussi, avec mon père, j'aimerais bien en faire certaines. Et avec mes filles, moi, elles sont encore un peu petites, mais c'est clair que quand on développe des expés pour les enfants, je suis obligé de penser à mes filles et des traversées des Cévennes ou de l'Ardèche en âne, dormir dans des tipis, comme ça, en itinérant sur 4-5 jours. J'ai carrément envie de le faire avec mes filles, mais il va falloir peut-être attendre 2-3 ans.
Ça fait un sacré paquet d'aventures. Ouais. C'est vrai que venant d'un aventurier, peut-être que ça paraissait logique de créer une agence qui emmène d'autres à l'aventure aussi, quoi. Je voyais un peu aussi effectivement les ambassadeurs que tu vas porter du coup sur votre site. Donc c'est, j'imagine, des personnes qui relaient l'information ou qui ont peut-être commencé certaines aventures avec vous ou même qu'ont été guides sur certaines des aventures aussi.
Ouais, les ambassadeurs. On a attendu un peu avant de lancer le principe des ambassadeurs. Et là, on est en train de... Alors, on l'avait fait à la jeunesse du projet avec 2-3. Il y avait Jean Troyet, notamment, et Mathieu Torder, qui, déjà bien avant, qui partent pour l'Antarctique. Voilà, qui m'aidait un peu à... On échangeait ensemble sur ce que pouvait être Explora. Et puis eux, qui étaient... Enfin, Mathieu, en tout cas, jeune explorateur, on a pas mal échangé sur les aventures et sur ce qu'on allait y chercher. Et depuis, on a reconsolidé la chose là, depuis quelques semaines. On est en effet là, on est une vraie famille d'ambassadeurs. Ils sont quasiment 25 et un peu de tous bords. Bah, les histoires, il n'y a pas de méthode. Moi, je suis un intuitif. Je marche à la poignée de main ou à la pinte de bière, à l'embrassade, à l'intuition, j'en sais rien. Donc, nos chemins de vie se sont croisés avec tous ces femmes-là et ces mecs-là. De plein de manières, ouais, il y en a qui... Mathieu, bah, il était venu, du coup Mathieu lui était là au tout début du projet, puis après il est venu faire sa préparation en crevasse et plein de petites expé de formation, des modules avant qu'il parte pour l'Antarctique, fin 2018 déjà, donc ça remonte. Et puis il y en a d'autres qu'on a rencontrés lors de nos Explora Talks, en gros un peu comme les TED Talks, on faisait des soirées dédiées à l'aventure qu'on organisait, gratuites, où on allait... tu regardais un film d'aventure dans un endroit un peu cool, New Age, tu décapsules une bière à la fin et puis tu parles tranquille de ce qu'a fait le gars, qui est hyper accessible. Au début, on était 30, 40, puis on s'est retrouvé jusqu'à être 400 à Lyon sur des soirées. C'était vraiment la folie. Ça, la dernière qu'on a, on a dû en faire une quinzaine de ces soirées-là, et la dernière, c'était en février 2020, là d'ailleurs. On fait une quinzaine, donc tu vois, quasiment, la première, c'était en septembre 2018, donc ouais, quasiment une par mois. Et ça a vraiment vachement marché. Ça, j'ai vraiment hâte de reprendre ça quand le confinement et tout ça sera derrière nous, quand on pourra se retrouver dans des bonnes conditions. Et du coup, il y en a certains qu'on avait invités sur ces moments-là aussi et qui venaient parler de leur aventure, de leurs expéditions, et qui étaient des gars authentiques et qui étaient chouettes. Puis il y en a d'autres qui sont venus en tant que clients, qui avaient réservé leur place à l'époque et tout. Et puis le guide de dire « Mais t'as vu passer ce mec-là, là ? Il était dans l'expé, mais le gars est super chaud et tout. » Puis on regarde, on dit « Mais attends, montre-moi le nom, là. C'est lui ?» Et tout, en bref. Du coup, il y en a certains qui, anonymement, et puis on les avait pas vu passer, ils sont inscrits avec une autre adresse mail, tu sais, un truc pas vraiment nom-prénom, on n'avait pas vu passer le truc. Puis... Donc, il y a eu un peu de tout, et aujourd'hui, c'est une bonne famille, en effet. Et à quoi est-ce qu'ils servent ? Et bah, déjà, ils servent à c'est un réseau pour eux, tu vois. Ils sont tous ambassadeurs, enfin explorateurs de leur côté, à leur manière, dans leur discipline. Ils sont contents d'avoir un réseau, de pouvoir se retrouver pour discuter d'aventures. Ils ont des partenaires à partager. Ils ont des partenariats à faire les uns les autres. Tu sais, là-dedans, ils sont tous explorateurs, plus photographes, plus caméramans, plus. Et donc, ils peuvent s'aider les uns les autres sur des expés. Et puis pour nous, c'était aussi d'avoir des visages, des histoires extraordinaires de type ordinaire. Tous ces gars-là, ils sont pas pros à proprement parler. Enfin, la plupart ont un métier à côté, ou en tout cas, ils n'ont pas démarré du tout pro comme ça. Et ça, je trouvais que leurs témoignages, ils étaient assez positifs, parce qu'en fait, ils vont un peu décaster ce monde de l'exploration qui est un peu je trouve que par la génération au-dessus de la nôtre, celle de Mike Horn a fait beaucoup de bien à l'aventure, mais d'une certaine manière, elle a un peu casté, quoi. C'est-à-dire que quand tu as des sponsors à plusieurs millions, ça ne rendait pas vraiment, je trouve, l'aventure accessible. Et c'est aussi que le tropisme des médias et des marques était d'aller vers les explorateurs les plus connus, pas les plus bling-bling, mais l'aventure humaine n'était pas vraiment valorisée, je trouve, autant qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc c'était des gens aussi qui avaient un témoignage de simplicité et d'accessibilité vis-à-vis de l'outdoor.
Très, c'est canon. J'ai un petit curiosité qui m'intéresse au niveau financier. C'est quoi le business model du coup de votre projet, et comment tu as fait pour grandir, comme tu m'as dit, de 2 à aujourd'hui une quinzaine ?
Ouais. Le business model est un business model assez classique d'agence de voyage. À la différence près que donc déjà dans ce qu'on encaisse, c'est comme une agence de voyage, c'est-à-dire qu'on encaisse ce que les participants payent. On n'est pas une marketplace, donc tu vois, on ne touche pas X% d'une transaction qui passe par notre plateforme. Donc on a des participants qui s'inscrivent. Là, pendant que je te parle, il y en a eu 7. Ils se sont inscrits sur des expés et ils payent entre 227 et 3100 euros, ça c'est cool. Et du coup, ils s'inscrivent et du coup, nous, on encaisse tout. Et après, on va payer des prestataires. Donc, on va payer un guide, on va payer la nourriture, on va payer le matos pour le groupe, on va payer les navettes, on va payer le transport, on va payer l'hébergement, on va payer parfois l'assurance, on va parfois payer des producteurs de contenu pour aller y prendre des images, des photos, etc. Donc, globalement, le business model, il est assez classique. On est en B2C, on encaisse de clients, on paye nos prestats. Et grosso modo, l'intérêt, c'est qu'on peut payer les prestats un peu mieux que ce qu'ils sont payés par ailleurs, parce qu'on a moins de... On a moins d'intermédiaires, bien sûr. Donc, et après, comment on a fait pour que ça marche ? Bon, ça, c'est, tu vois, le time to market. Quand tu lances une boîte, le voyage d'aventure était vachement mûr chez les Anglo-Saxons, beaucoup moins chez les Français il y a 10 ans, en tout cas, il y a 5 ans. Il y a 10 ans, c'était vraiment les frémissements. Il y a quelques boîtes qui se sont lancées il y a presque autant de temps, comme des boîtes comme Casaden ou autres, qui avaient déjà senti qu'il y avait quelque chose à faire sur le voyage d'aventure. Tard d'aventure fonctionnait bien, mais pour les générations beaucoup plus âgées, quoi, des moyennes d'âge plutôt de 60 ans, voire un peu plus. Mais pour les générations un peu plus jeunes, on va dire pour les 20-45, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est vrai que ça s'est vachement accéléré depuis 3 ans et ça a explosé depuis 1 an, quoi, pour faire simple. Donc, des marques qui ont du sens, des intermédiaires, transparents, communiquer sur les canaux de communication que nos générations utilisent. Enfin, tu vois, ça paraît facile comme ça, mais c'était rien d'autre que ça, quoi.
Alors, tu me refais la jeunesse, du coup, tu commences à 2, donc tu cofondes ça avec quelqu'un ou tu as eu l'idée tout seul et puis tu as invité un collègue à venir?
Non, j'ai démarré tout seul. J'ai salarié la Camille, la première personne. La jeunesse du projet est appuyée dans mon histoire perso où, en parallèle de ces années de trading, j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied. Donc, au début... ça a commencé quand j'étais diplômé de l'EDEC 2009. J'étais président de la course croisière EDEC cette année 2009, qui est une course de voile que tu connais sûrement, course étudiante. Et du coup, je fais ça 3 ans. Et puis la dernière année, j'étais en charge de l'association. J'étais co-président avec Benjamin, un copain. Et du coup, on a beaucoup bossé. Pour moi, c'est la vraie première année de baptême du feu. J'aurais dit de l'aventure un peu entrepreneuriale, parce qu'on était évidemment bénévole, mais il y avait 50 GUS dans l'association, c'était 2,5 millions d'euros de budget, c'était le plus gros événement étudiant sportif d'Europe, c'était vraiment fat, quoi. Donc cette année-là, j'ai ressenti le besoin de faire à côté du sport, d'aller courir assez régulièrement, puis la course à pied était assez simple, accessible à n'importe quelle heure. Et donc, j'ai commencé comme ça. Puis après, j'ai démarré à la BNP en trading d'actions post-Lehman Brothers. C'était une année qui n'avait aucun sens. C'était le foutoir absolu sur la planète et encore plus dans les salles de marché. Et du coup, là, j'avais des horaires ultra décousus. Et donc, je ne pouvais que courir parce que je sortais, je ne sais pas, parfois hyper tard. Et donc, j'allais courir dans Paris, je ne sais pas, de 23h à 2h du mat, quoi. Enfin, c'était vraiment... Et du coup, je courais et j'ai fait ça presque tous les jours. Plus je bossais, plus j'avais de la pression sur les marchés, plus j'avais besoin de cet échappatoire et plus je courais longtemps, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis après, j'ai démarré en trading chez Cargill. J'habitais en plein Paris 16e, pas très loin de l'Étoile, place d'Iéna. Et je bossais à Saint-Germain-en-Laye. Et je me suis dit, putain, mais je bosse comme un malade, j'ai pas le temps de trouver des moments pour faire du sport. Et puis un soir, je me suis dit, bon, je vais rentrer en courant. Il y avait 22 bornes, donc j'ai foutu mon... Enfin, c'était même pas mon costard, on n'était pas en costard, mais j'ai foutu mes affaires dans le sac à dos, puis j'étais rentré en courant. Puis je l'avais fait le lendemain, et puis en fait, je l'ai fait pendant 1 an. Donc pendant 1 an, je me bouffais mon semi-marathon tous les soirs, et du coup, j'étais quand même devenu très chaud en course à pied, quoi. c'est-à-dire qu'en gros, je courais un espèce de rythme de 10 km/h. J'avais l'impression que je pouvais courir des heures et des heures et des heures. Et c'était en fait le cas, quoi. Du coup, je commençais à me manger entre 80 et 200 bornes par semaine, quoi, tout le temps de course à pied. Et puis ce week-end, je faisais un marathon. Et puis c'était vraiment... je te dis pas que je faisais un marathon en 3 heures, tu vois, mais je le courais tranquille en 4 heures, 4 heures 15 et tout. Puis j'étais vraiment pas fatigué, quoi. C'était en train de devenir une partie de moi-même. Mon corps était complètement habitué à cet effort de course à pied. Et quand je courais pas, j'étais pas bien, j'avais un énorme manque d'endorphines, j'avais les pieds qui commençaient à gonfler parce que le retour veineux avec l'impact de la course à pied, ton corps s'y habitue d'une certaine manière. Donc, tu vois, mon corps était en train de devenir un espèce de corps de mec qui doit courir tout le temps. Et du coup, je me suis mis à me lancer dans des défis. Donc, j'ai fait des marathons, des 100 km, des 100 km de Mio. J'étais arrivé meilleur jeune, je crois, en 2000. Je ne sais plus quelle date, là, je dirais une bêtise, mais j'ai fait 2 fois les 100 km de Mio, c'était génial. Du coup, voilà, tout type. Et je me disais, en fait, je suis fatigué, mais j'ai l'impression que mon corps peut faire beaucoup plus. Et donc, je me suis dit que j'allais traverser la France en courant, ce que j'ai fait en 2011. Donc, j'ai fait l'île Nice en 15 jours, en 95 bornes par jour. Et du coup, c'est le record actuel. C'est un vrai concept. Mais même moi, vu de maintenant, ça me fait rire.
Attends, pause. Lille.
Lille-Nice, en passant par Lille-Nice. Paris. Ça fait 1170 km, un truc comme ça.
Oh, vache.
Donc ça doit faire 80-90 bornes par jour. Et je l'ai fait 15 fois de suite. Que dire ? Je sais pas trop, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je raconte ça parce qu'il y a la genèse du projet Explora, il est dans... cette espèce d'envie viscérale de ne pas avoir un destin ordinaire, quoi. Et donc de faire des trucs qui étaient à ma portée, qui, tu vois, parce que ça m'a coûté quelques milliers de balles. J'ai loué une bagnole, j'ai fait 2000 euros de course chez Decat, j'ai loué une voiture au Avis du Charles de Gaulle Étoile, on a mis des stickers dessus et... Enfin, je me suis acheté deux paires de godasses, j'ai demandé à deux potes de venir, on a loué un vélo et c'est parti, quoi. En fait, il n'y avait rien de... C'est-à-dire, j'ai fait un tracé sur Google Maps, j'ai plastifié 15 feuilles et en avant pour 15 jours, quoi. J'avais fait des pré-résas dans 2-3 auberges à droite à gauche pour avoir quelques points de chute. Et puis voilà, enfin, franchement, la logistique, elle était hyper simple, quoi. Et du coup, j'avais l'impression que c'était à portée de basket et je trouvais énorme. C'était un Britannique qui avait ce record-là en 18 jours. Bon, bah... C'est pas possible, quoi. Tu peux pas laisser un Anglais le record de la traversée du pays en courant, quand même. Il y a beau un moment, sans être complètement chauvin, faut quand même remettre les choses à leur place, quoi. Du coup, ça m'amusait aussi, cette espèce de défi-là me faisait marrer. Et puis après, voilà, j'ai accolé une cause, l'enfant à l'hôpital, sur ça. C'est une rencontre très touchante que j'avais fait quelques mois avant le départ. Et du coup, à chaque kilomètre que je courais, il y avait mes sponsors qui donnaient 10 euros, je crois, pour l'association. Donc au final, ils ont levé près de 12 000 euros, 10 ou 11 ou 12 000 euros pour l'enfant à l'hôpital. Et puis j'échangeais avec les enfants chaque jour sur mon état de forme. Ils me posaient plein de questions. On avait une ligne ouverte comme ça via leur plateforme. Donc voilà, hyper touchant, des enfants souvent atteints de maladies graves, en bulles stériles et qui communiquent avec l'extérieur, qui ont un apprentissage du parcours, du cursus pédagogique de leur âge, un peu adapté et dont le support, c'est des histoires d'explorateurs comme moi j'étais un de ces explorateurs-là pour eux. Et donc, au travers de ma course, c'est un relais pour les enseignants pour aller parler un peu de géographie, d'anatomie, de biologie, etc. Donc, en gros, manière un peu ludique d'aborder le programme. Et pour moi, c'était super touchant, en fait, parce que j'avais pas trop réalisé à quel point ça me bouleverserait autant cette relation-là et ces échanges, parce que j'étais déjà dans un état émotionnel assez particulier pendant cette quinzaine-là. Là, je suis complètement en train de dériver de ta question. Je suis en train de parler de l'INIS, mais bref. Mais je finis, je suis rapide. Et en gros, du coup, moi, j'étais vraiment à fleur de peau parce que j'étais épuisé. Je crois que c'est tous les jours, en fait, dès la première demi-heure jusqu'à la dernière seconde. Je crois que j'étais vraiment cuit, quoi. Et donc, état émotionnel, voilà, à fleur de peau, hyper émotif. Et parce que dans une souffrance, en fait, permanente. Et donc, d'avoir l'impression de vivre pour 15 jours, une partie de la souffrance corporelle de ces enfants-là, c'était quand même une bonne claque, quoi. Alors, et je pense que ma souffrance n'avait rien à voir avec la leur. Donc, clairement, c'était quand même, ça m'a pas mal bousculé. Et d'avoir leurs questions le soir, est-ce que t'as plus mal que moi? Est-ce que tu as vu mon papy aujourd'hui? Il est pas loin de là où t'es passé. Enfin, tu vois, c'était de tout. Il y avait des enfants de 5 ans jusqu'à des jeunes de 16-17 ans. Les questions étaient assez variées, mais c'est vrai que ça m'a pas mal bousculé. Puis ça a donné tout de suite beaucoup de... Enfin, en tout cas, ça a donné beaucoup de profondeur au projet pour moi. Et dès le premier soir où j'ai reçu leur première question, je me suis dit, c'est impossible, quoi. Mec, tu vas finir cette putain de course, whatever, quoi. Et donc, c'était devenu... Il n'y avait pas d'alternative possible. Je ne pouvais que finir, quoi. Du coup... Voilà, en gros, comment ça s'est passé. Et puis de tout ça, qu'est-ce que j'ai ressorti de cette expérience? J'ai pris une semaine de 5 jours de repos après et je suis retourné bosser. Et ma vie a repris son cours absolument normal. Et je me suis dit, c'est horrible et génial à la fois. Ça veut dire qu'on peut tous faire des trucs extraordinaires pendant une tranche de vie. Et la vie ne s'arrête pas de tourner. J'ai posé que 15 jours de congé, un peu plus de 15 jours de congé auprès de mon employeur. Enfin, j'ai posé des vacances, quoi. Il n'y avait rien de... Lui, si je ne l'avais pas tenu au courant, peut-être qu'il n'aurait pas su. Il se trouve qu'ils m'ont vachement accompagné, médiatisé, aidé et tout. Mais bon, c'est accessible. Voilà, c'est pour tout le monde. Et ça avait tellement bousculé des gens. Ça avait été quand même pas mal médiatisé quand même pour l'époque. Et du coup, plein de gens m'avaient dit, moi aussi, je rêve de faire un truc un peu comme ça. Et là, je m'étais dit que pour être un peu... Pour être stable dans la vie, il fallait la famille, les amis, le boulot, puis il fallait ce quatrième pied au tabouret qui est les projets qui mettent en mouvement, quoi. Les projets de long terme, les projets qui nous font avancer, qui peuvent recouper les autres sphères, hein, qui peuvent être des projets de famille, des projets d'amis ou des projets pro parfois. Hein. Mais en tout cas, on a besoin de projets, on a besoin de long terme, on a besoin un peu de folie et on a besoin de se rêver à. Et ça, ça fait quand même avancer, quoi. C'est la seule chose qui fait sortir du métro boulot dodo. Enfin, même si c'est vélo boulot dodo, peu importe. La seule chose qui fait sortir de ce cercle-là, c'est d'avoir des aspérités, quoi. Et ces aspérités-là, bah, je m'étais promis que j'allais créer une agence pour pousser les gens et pour aider les gens à créer des, bah, à vivre un peu cet instant d'extraordinaire dans nos vies ordinaires. Et du coup, de ça est né Explora, que j'avais déposé à l'époque déjà. J'avais gratté plein de calepins depuis 2011-2012 sur ce que devait être Explora. Et c'est pour ça que c'est parti un peu tout de suite, un peu comme une fusée. C'est que j'avais tout en tête. J'avais 8 calepins sur lesquels j'avais gratté jusqu'à la gueule du logo qui était déjà faite il y a 4 ou 5 ans, jusqu'à plein de trucs, en fait, et plein du côté des ambassadeurs, de comment nos expéditions devaient être organisées, de ce que je voulais créer chez les gens, de type d'image que je voulais montrer, du ton que je voulais employer, de plein de choses. J'ai même encore de dessiner des choses qu'on n'a pas du tout fait. Un jour, si on a des shops ou des stores ou des base camps, parce que c'est le nom que j'avais donné, d'avoir des Lyon base camp, des Paris base camp, des Annecy base camp, des Strasbourg base camp, où on pourrait avoir des pôles comme ça d'outdoor en plein dans la ville et qui permettent de faire une vraie bouffée d'air où on puisse présenter nos projets. Puis j'avais dessiné les croquis des magasins et tout. Enfin bref, je suis parti loin, quoi. Il y en a encore sous le pied. Mais voilà, en gros, comment ça a démarré, c'est de cette expérience-là, j'ai voulu l'offrir aux autres. Et puis ça, c'était mon histoire perso. Puis cette histoire, elle a percuté un marché, quoi. Elle a percuté le marché du voyage d'aventure qui était en train d'exploser et les médias nous donnaient à manger du MyCorn matin, midi et soir. Les marques commençaient à s'en emparer et à partir du moment où les gens voient ça à la télé, bah, ils veulent le consommer eux-mêmes, hein. C'est, on connaît le classique, vu à la télé, mais après, bah, ok, les gars, ils ont aimé, maintenant, ils veulent pouvoir l'acheter, quoi. Donc, en gros, je me suis assez vite dit que le next step, c'était que les gens allaient s'y mettre eux-mêmes et il fallait créer le bon produit pour, quoi. Ni trop accessible, pour créer cette espèce de travail sur soi, d'aller chercher ce projet-là, qui s'offre pas à toi si facilement que ça. Il faut en avoir envie, parce que c'est ces personnalités-là que j'avais envie de rencontrer. Mais ni trop compliqué, parce que notre vie à tous l'est déjà suffisamment et qu'on est là pour aussi être des facilitateurs de rêves. Donc voilà. Et Explora a vu le jour et il se trouve que je pense que la vague de ce que j'avais senti de ce marché-là n'a fait que grossir.
Ça tombait plutôt bien. Alors ça veut dire que si tu fais été 2018, tu commences à vendre tes premiers projets, quoi. Déjà au bout de fin 2018 ou c'est arrivé plus tard?
Alors ouais, on a itéré de juin juillet 2018 jusqu'à février 2019. On a itéré plein de formats. On a essayé. On a fait un mapping de la compétition assez précis, puis après on s'est dit en fait c'est chiant, allons faire nos propres trucs et puis on va pas essayer de copier ce que font les autres, essayons de qu'est-ce que déjà nous on aurait envie de faire quoi. Donc on était avec Camille tous les deux, on dit bah, là t'as envie de faire quoi? Moi j'aimerais trop faire un peu de rafting, mais c'est hyper galère, canyoning, même la spéléo ça me fait peur. Puis on est allé un peu sur pourquoi, quelles sont toutes les disciplines qu'on a envie de faire, toutes les émotions qu'on a envie de vivre et quelles sont les barrières qu'on met en face et qui nous empêchent de le faire. Et puis on a essayé petit à petit comme ça de tout décloisonner, de tout simplifier. Et donc on a testé beaucoup de formats, de la demi-journée, des trucs de 3 heures, des trucs de 3 semaines. Enfin, on a un peu tout essayé. Très cher, pas du tout cher. On a dû aller de 60 à 5 000 euros. Et puis on s'est retrouvé à dire en fait notre positionnement. C'est au moins 2 jours et il faut qu'il y ait une nuit quand même, parce que j'ai dit qu'il faut que le truc prenne. Et puis même, je préférais 3 jours de nuit, parce que sinon, après, en dessous de ça, t'as du mal à créer une cohésion dans un groupe. Je préférais l'aventure humaine en groupe que l'aventure solo. On avait même testé un peu au début des aventures sans guide. On dit on te forme et tu partiras sans guide. D'ailleurs, je crois que la première baseline d'Explora, c'était Self-Guided Extreme Expeditions. Voilà, mec, tu pars pour faire des trucs de bourrin sans guide. J'étais quand même un peu perché à l'époque, quoi. J'avais peur de rien. Et du coup, bon bref, on a un peu itéré et puis on a pivoté doucement. On a plutôt suivi la vague du marché plutôt que pivoté, parce qu'on était en découverte de notre marché. Et puis globalement, on a commencé sous notre modèle actuel à vraiment vendre peut-être en février-mars 2019, tu vois, ça fait peut-être un an et demi. Et puis 2019, on y allait piano parce qu'on découvrait des nouveaux univers qui avaient rien à voir avec leur code, qui étaient hyper différents, des nouveaux environnements, la haute montagne, la haute mer. Hein, tu vois, quand tu dois faire des expéditions en haute mer, c'est encore autre chose. Hein, des prestats différents, des guides, donc des skippers qui ont rien à voir, des partenaires complètement différents, un public différent, de l'acquisition... d'acquisition donc payante ou du marketing différent, des ambassadeurs qui n'ont rien à voir, qui sont dans des autres univers, voilà, avec assez peu de porosité finalement entre ces différents environnements. Tu vois, les grands alpinistes et les grands skippers, tu vois, ils se connaissent pas trop, quoi. Parfois sur quelques plateaux télé pour les plus illustres, mais bon, à l'ensemble, ils se connaissent pas trop. Donc, il y avait aussi créer un lien, aller sur du multi-activité, aller retoucher cette espèce de touche à tout permanent que les gens cherchent. Et puis, et puis l'équipe finalement a eu printemps 2019, a été le grand virage où on est passé d'une centaine de participants à 200-300 assez vite. Et là, l'équipe qui est passée de 2 à. On est passé à 4. Fin de l'été, on était 6. Et puis, fin de l'année, donc fin 2019, début 2020, on était déjà à 11. Et puis aujourd'hui, 16. Et voilà, donc grosso modo. Après, ça a été allé en courbe un peu linéaire. On a trouvé du financement extérieur auprès de financeurs qui respectaient le projet, qui nous offrent le timing qu'on veut, le choix de décision. Où la mission sociétale et environnementale a été inscrite dans les statuts de l'entreprise. On est une entreprise à mission, d'ailleurs la première agence de voyage française à mission. Notre mission est donc de devenir, notre raison d'être, c'est de devenir l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc on a vraiment mis au cœur de notre démarche côté environnemental. Ouais. Donc pour l'instant, écoute, on s'éclate bien.
Ça en fait des choses.
Ouais.
Comment ça ressemble à quoi du coup une semaine type typiquement tu parlais effectivement de ton lundi après-midi et c'est pour ça qu'on enregistre lundi après-midi.
Ouais.
Un peu plus dispo pour ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe le reste de la semaine du coup?
Les lundis sont un peu, c'est un peu le seul jour qui est assez fixe en effet. J'aime bien démarrer la semaine par un jour un peu repère. Bah, le lundi c'est des meetings avec l'équipe, avec tout le monde. Donc on fait un point entre management team un peu plus serré d'abord et après avec toute l'équipe. Où on redonne ce qui s'est passé la semaine dernière, les grands objectifs, les grands KPI de la semaine passée, les bons points, les moins bons points, un peu la to-do list de chacun. On prend la température de tout le monde, on annonce les grands recrutements, les grands projets, etc. Les annonces sont faites le lundi matin. Et c'est vrai que le lundi après-midi, c'est un moment un peu pour moi où je prends le temps d'échanger avec Hors Explora, avec pas mal de gens qui me sollicitent de ce milieu ou d'autres, et où finalement je prends le temps... ouverture sur le reste du monde et qui me fait beaucoup de bien. Et puis après, le reste de la semaine, et à la fois, il y a quelques réunions de département, peut-être à peu près 3 réunions de département qui chez nous sont assez succinctes. On essaie de donner la plus grande autonomie aux équipes qu'on peut. Donc juste pour prendre vraiment la température, les projets et les aider à la décision s'ils sont un peu coincés. Et après beaucoup, et on essaie de faire de plus en plus de temps, pas mal de temps avec Alix, mon associée du coup cofondatrice d'Explora, où tous les deux on essaye de prévoir un peu le coup d'après, d'avoir un peu de hauteur sur ce qui est en train de nous arriver, de sortir un peu de l'opérationnel, du run habituel, et d'être plus dans le build. Tu vois, le run maintenant on le laisse un peu aux équipes, tout ce qui se passe ça tourne, ils ont théoriquement plus trop besoin de nous. Donc on essaie d'être dans le build, dans les projets, sur d'autres verticales, sur de l'optimisation de ce qu'on fait déjà, etc. Donc voilà, donc les semaines se ressemblent pas trop. On essaye quand même d'avoir un lien toujours chaque semaine avec nos expéditions, en parlant à des participants ou en parlant à des guides ou en parlant avec la concurrence le mot est un peu brut, mais en tout cas entre ceux qui proposent aussi du voyage d'aventure, on essaie de maintenir des liens et des lignes ouvertes avec tous. Donc voilà, c'est le premier élément. Puis on essaye aussi puis il y a aussi parfois pas mal de relations presse, d'interviews, d'articles, on nous demande nos avis ou dans des think tanks. Et là, on essaye d'abonder pour faire un peu avancer le schmilblick. Et puis après, Alix et moi, on a tous les deux nos engagements perso. Moi, je suis aussi... au bureau attaché au tourisme de l'agglomération du Grand Annecy et donc des 35 communes autour d'Annecy et donc au bureau de l'office du tourisme qui est quand même une grosse structure donc voilà, on est une petite dizaine dans ce bureau là et j'essaie de passer aussi du temps pour mettre en action sur le territoire en local les bonnes pratiques que nous on voit et qu'on a envie de qu'on a envie de mettre, d'insuffler aussi des méthodes de travail peut-être un peu plus lean, un peu plus start-up dans ces chambres et ces environnements qui sont pas toujours habitués à ce genre de manière de travailler. Donc voilà, on essaye d'être un peu connecté au monde réel, tu vois, et de pas être ni la tête dans le guidon Explora, pas non plus à se lever, à faire des interviews pour l'extérieur non plus tout le temps. Donc on essaie de trouver la juste balance entre tout ça. Mais c'est assez chargé, mais j'ai vraiment pas l'impression de bosser, tu vois. Ça, je sais que j'ai déjà entendu plusieurs fois Guillaume Gibaud du Slip Français dire ça. Au début, il me disait, ah, il se fout de nous. Attends, il exagère et tout. En fait, je pense qu'il a raison, le gars. Et moi, je le ressens aussi. J'ai pas l'impression de bosser. J'ai l'impression pour l'instant que c'est tellement excitant et passionnant que voilà, le temps passe trop vite. Voilà ce que je me dis toute la journée. Donc.
Tu comptes mener ça où? C'est quoi les guidelines pour la suite là? Est-ce que tu te donnes quelques années dans le projet, puis tu passes la main à un futur dirigeant, ou est-ce que tu as une vision là-dessus ou pas encore?
Ouais, j'en ai une. C'est un peu tôt pour la partager, mais tu sais, on est assez entier dans nos choix et très ambitieux sur ce projet. Donc on a plusieurs choses qui tournent déjà, qui gravitent déjà autour de ce projet-là sur la suite. Je sais pas si ça va être des pages qui vont se tourner radicales. Il y a beaucoup de choses à amener dans ce projet-là. Je pense qu'il peut grandir plus que grossir et avoir de l'impact sur de plus en plus de l'impact positif sur de plus en plus de gens, de plein de manières que ce soit. Donc aujourd'hui, on est en test and learn sur comment est-ce qu'on pourrait, au-delà de notre secteur actuel, voilà, avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement. Puis il y a beaucoup de choses qui émanent. Un de ces bourgeons là, c'est Exploracare, qui est une association d'utilité publique qu'on a créée il y a très peu et qui vient être un peu le j'ai envie de dire un peu le Sea Shepherd du surtourisme, c'est-à-dire qui vient être un peu le bras armé, le bras engagé de notre mission, et qui vient mettre en œuvre les projets à impact positif justement pour l'homme et l'environnement que nous souhaitons mettre en avant, qui est financé en partie par Explora Project. Donc l'ambition d'Exploracare dépendra du succès aussi économique et de ce qu'on arrive à concrétiser avec Explora Project. Donc c'est assez chouette. Donc voilà, on est aujourd'hui en train d'essayer de voir, plutôt que de voir grossir, c'est comment est-ce qu'on peut give back de manière efficace, efficiente, continue, perpétuelle. Voilà, je crois qu'on voit bien que le projet est en train de fonctionner et je crois que dès le début, voir comment est-ce qu'on rend ça, à qui, comment, c'est ce qui nous anime aujourd'hui. Plutôt que d'essayer de faire grossir, c'est comment est-ce qu'on peut distribuer, on va dire.
C'est quoi ton plus grand rêve, du coup?
Pour l'instant... Mon plus grand rêve, ce serait c'est clairement d'offrir ces instants d'extraordinaire que j'ai eu la chance de vivre à des gens, au maximum de gens autour de moi. Donc c'est clairement, en premier lieu, je parlais de l'enfant à l'hôpital, ça a été un choc qui, moi, m'a vraiment bouleversé, de pouvoir faire partir des enfants comme on l'a fait... de l'association Sport dans la ville de banlieue défavorisée de Grenoble, qui voient la montagne et qui ne sont jamais allés crapahuter, de les faire partir en expédition comme on fait, on a fait déjà deux fois, comme on va faire pour toutes les vacances scolaires. Bah pareil, c'est les trucs que tu te dis, putain, mais ça sert à quelque chose, bordel. Il faut le faire, quoi. C'est rendre accessible, en fait. Je crois que démocratiser, c'est un mot simple, mais ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. C'est qu'aujourd'hui, derrière ces expériences d'outdoor, c'est un respect pour la nature, c'est finalement la compréhension des mécanismes aujourd'hui de réchauffement climatique, la nécessité d'engager autour de soi, qui passe par une belle expérience et un moment, une émotion vécue en pleine nature ne nous laissera plus jamais indifférents face à la nature. Enfin, ça, c'est j'en suis convaincu. Donc, le plus grand rêve, ce serait d'être capable de réaliser cette mission qu'on fait aujourd'hui de manière assez locale, à l'échelle et de manière globale. Et d'arriver à engager derrière probablement un mouvement de générations, de citoyens, d'enfants qui comprennent ces problématiques, s'en emparent et trouve des solutions concrètes et réelles. Alors, je sais pas, mouvement, ça fait un peu politique, mais c'est même pas des trucs qu'on exclut, en fait. Pour moi, c'est pas des gros mots, en fait. C'est du passage à l'action, en gros, de la société civile. Donc, voilà, il y a tout ça qui gravite.
C'est vraiment canon. Bravo, parce que c'est quand même pas simple. Tu as des personnes en particulier que tu vas admirer, peut-être, sans doute en lien avec ton projet, ou d'ailleurs peut-être pas du tout, mais des gens qui vont être un peu les personnages clés dans ton quotidien, ou en tout cas dans ta vie jusqu'ici, que tu vas regarder vers le haut.
Des gens que j'admire aujourd'hui, mais il y en a beaucoup. Moi, je suis assez admiratif des petites voix courageuses, c'est-à-dire de ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent à convaincre sans rechercher forcément la lumière. Je suis assez attiré par ceux qui ont raison, qui le savent et qui prennent le temps d'essayer d'embarquer les gens et qui laissent le temps aux autres de d'évoluer à leur rythme. On le voit beaucoup sur le sujet du réchauffement climatique. Donc des noms en particulier, je dois avouer que c'est pas des noms en particulier, mais je suis assez admiratif de ceux qui travaillent, les besogneux par exemple de la recherche, qui travaillent en recherche fondamentale pour améliorer les choses en physique, en mathématiques appliquées à l'écologie ou autre. On en a une dans notre équipe, Laura, qui est jeune doctorante en écologie. Puis c'est rigolo parce que ces gens-là, ils ont une analyse précise, quantitative de la situation. Ils ont des solutions. Et je trouve fou le fait qu'ils ne soient pas audibles, en fait, et que finalement, ceux qui ont le pouvoir ou ceux qui ont le micro sont pas forcément ou sont la plupart du temps les moins bien placés pour faire, et sont censés s'entourer d'experts, mais ils n'y arrivent pas nécessairement tout le temps. Donc moi, je suis assez admiratif de ces chercheurs, de ceux qui font vraiment avancer le schmilblick, et d'une certaine manière on a lancé la bourse climat pour essayer de financer justement des projets de recherche climat pour essayer de leur offrir à minima un micro et un peu d'argent pour mettre en action leur thèse de recherche fondamentale. Donc, ouais, ça fait partie des populations aujourd'hui que je respecte beaucoup et que j'ai envie d'aider.
Stan, ça va bientôt faire une heure qu'on discute.
T'en passes vite.
Ça passe tellement vite, c'est incroyable. Avant qu'on se quitte, j'ai quand même trois questions pour toi.
Vas-y.
La première, c'est plus au niveau de ton... Comment dire ? Si tu devais conseiller quelqu'un sur ces étapes-là à suivre typiquement, qui veut se lancer dans un projet un peu équivalent, qu'est-ce que tu lui proposes de faire ?
Si je devais conseiller quelqu'un, bah, j'ai de cette question que tu poses, j'ai ressenti la nécessité de faire un journal de bord que je partage sur mes réseaux parfois, donc des épisodes quasi hebdomadaires, j'essaie de m'y tenir, pour donner justement des conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé. Revenir sur les plus marquants pour moi, ce serait sur la nécessité de s'ouvrir et de bien s'entourer. C'est-à-dire que je trouve que la plupart de beaux projets sont portés par des gens qui veulent avoir raison tout seuls, qui essaient de cacher leurs idées. Je ne sais pas combien de fois il faudra le dire pour que ce soit entendu, parce que je ne suis pas le seul à dire ça, mais c'est presque depuis la nuit des temps. En fait, une idée ne vaut rien, quoi. C'est sa mise en exécution qui vaut quelque chose. Et donc cet aspect assez un peu cachotier des débuts des projets, je trouve que c'est toujours dommage, parce qu'en fait, ça leur fait perdre un temps fou. Et on est le plus créatif dans les premiers temps du projet. On a les charges et les coûts les plus faibles dans le début d'un projet. Et c'est exactement le moment où justement certains projets voient le jour et d'autres meurent, ou des très bonnes idées meurent parce que voilà, les gens n'ont pas voulu s'entourer. Donc ce serait s'entourer de gens bien meilleurs que soi, donc identifier quelles sont ses zones de faiblesse, faire cette analyse authentique-là, et pour être capable de s'entourer de personnes meilleures que soi pour, dès le début du projet, le mettre en mouvement le plus vite possible. Donc je crois que ce serait voilà, s'entourer de personnes plus compétentes que soi et ne pas sous-estimer qu'à partir du moment où on se lance dans un projet, le temps passe vite, le temps c'est de l'argent et donc essayer d'optimiser ses premiers temps en étant tout de suite à l'action. Et bizarrement, ce serait aussi attendre avant de se lancer, d'avoir suffisamment fait toute une phase qui peut, du projet en création qui peut se rédiger et s'écrire avant de déposer des statuts et de créer une structure juridique, parce qu'à partir du moment où on dépose des statuts, les frais, les notes de frais démarrent. Donc prendre cette phase-là de réflexion, de page blanche, de stylo cahier, parce qu'après on a beaucoup de mal à retrouver ce temps-là, c'est pas si facile. Donc c'est du pain béni. Et puis ce serait le premier conseil. Le deuxième, ce serait de pas avoir peur. Je trouve que j'entends souvent que je suis un gros bourrin. Vous avez fait les trucs hyper vite, vous avez foncé. Ouais, on est allé vite, mais c'est surtout que il y a un moment dans ce monde-là de la création de projet et de la start-up, le meilleur test, c'est le client, quoi. Tu vois, c'est genre launch. Et test, quoi. Launch et iter après, quoi. Et plutôt que d'essayer d'avoir la Formule 1, commence avec une bagnole avec des roues en carton. Après, ça marche pas, donc tu changeras, tu mettras des roues en bois, mais tu auras déjà avancé, quoi. Un peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de l'énergie, elle est dans le mouvement que tu mets au projet. Il faut lancer, il faut y aller, il faut itérer, il faut pas faire les choses à moitié. Tout ce qui est tiède fonctionne pas. Puis on n'a pas de conclusion sur les choses qui sont tièdes. Donc si on veut aller chercher de l'AB testing, comme on dit dans les startups, vaut mieux être assez engagé sur ce qu'on fait. Et sinon, on n'aura pas de conclusion franche, quoi.
Comment on fait pour te suivre, du coup? C'est quoi les tu m'as parlé de réseau effectivement en particulier. Est-ce qu'il y a le tien, il y a celui d'Explora? Comment on fait pour te suivre?
Ouais, c'est comment plutôt est-ce qu'on fait pour ne pas me suivre, parce que j'ai l'impression que je suis en train de casser les pieds à tout le monde sur les réseaux, le nombre de mecs qui disent « Ah mec, de copains, attends, on te voit partout là, c'est relou !» Donc, non, je plaisante, mais sur LinkedIn, Stanislas Gruau, sur Instagram et Facebook, Stan Gruau, Twitter, Stan Gruau, et pareil, Explora Project sur tous ces réseaux-là. Donc Explora pour l'aventure, l'exploration, et moi pour l'arrière du rideau, un peu plus start-up et un peu course à pied aussi.
Et le nom du site web, explora-project.com.
Exactement.
Du coup, dernière question, Stan, c'est imagine on a la technologie pour te renvoyer un peu dans le temps et on te ramène à ce Stan qui sort d'école, qui vient d'être passé cette année en tant que président de la CCE. Qu'est-ce que tu lui dis?
Je lui aurais dit, est-ce que tu peux, avant de te lancer dans le trading, là, dans ce tunnel de 8 ou 10 ans, fixe-toi un objectif de sortie, quoi. Donc, quand on ne se fixe pas les objectifs de sortie au début d'un projet, c'est vachement dur pendant ce projet, au cours du cheminement de ce projet, de se construire soi-même sa porte de sortie, quoi. Donc c'est pas mal quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, c'est encore plus criant. Quand on démarre, on se dit bon, allez, dans 2 mois, ou au début c'est du cycle même encore plus court, hein, dans quelques semaines, je veux être arrivé là. Si je suis pas arrivé là, je fais ça. Voilà, je me le dis, je me l'écris, et c'est vachement important, parce que sinon on laisse glisser, et le pire dans la vie, c'est ce glisser décalé, quoi, qui fait que tu as une espèce de... Ta vie, elle est en slide, tu es en zone grise, tu vas t'écumer 200 semaines de pinte le jeudi soir avec tes potes, où tu vas leur dire, j'ai un autre projet. Ça, ouais, je ferais bien un autre truc. Mais tu t'es rien fixé, t'en sais rien, et tu te convaincs qu'il y aura autre chose. Donc je me serais dit, ok, tu veux essayer le trading? Ok. Toi, tu es un gars entier, radical. J'arriverai pas à te convaincre parce que je sais que tu es vraiment relou quand tu as un truc en tête. Donc, vas-y, fais-le. Mais dis-moi pour combien de temps et dis-moi ce que tu vas y chercher. Et quand tu auras écumé cet horizon de temps-là ou que tu auras atteint ce job-là que tu seras fixé ou quel niveau de salaire, à l'époque, j'étais un peu con, c'était peut-être plutôt avec le niveau de salaire que ça aurait fonctionné. Et du coup, tu sors, voilà, et tu vas faire autre chose parce que ce projet Explora, il germait déjà depuis longtemps et je regrette de l'avoir fait aussi tard. Peut-être que je l'aurais fait trop tôt. Parce que le marché n'aurait pas été là. Mais bon, on aurait pivoté, on aurait trouvé d'autres trucs, c'est pas ça qui m'inquiète. Donc voilà, je regrette d'être rentré dans ce tunnel un peu sans fin. La seule chose. Mais bon, après tout, j'aurais jamais lancé Explora à ce moment-là. Je me connaissais pas assez intimement, personnellement, professionnellement. J'étais trop foufou. J'aurais fait des choix à la Trump, quoi. Ça n'aurait pas marché, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord sur les dates et se fixer un échelon, tu vois, à chaque fois pour aller le chercher. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire je le ferai ou ça va arriver. Et puis en fait, comme tu dis, ça glisse et puis ça ne se fait jamais finalement dans le temps.
Ouais.
Bon, merci Stan pour ce super échange d'une heure.
Avec plaisir, Pierre-Arnaud.
Et puis écoute, on espère à très vite voir les prochains épisodes de niveau 5 qui vont sortir, savoir quel autre truc de taré vous allez encore imaginer.
Avec plaisir. Merci à toi.
À très bientôt. Salut.
Salut. Bye bye.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.